Bonjour, Marco, compte à rebours. À l'écoute de ce générique, c'est un réflexe automatique dans toutes les maisons, dans tous les salons. Chacun ferme légèrement les volets, s'installe dans un fauteuil et ouvre les oreilles. Ce sont des histoires, des contes, tout un tas d'histoires. Et cette semaine, à nouveau, je vais repasser aux blagues, aux courtes. Vous vous rappelez, la semaine passée, j'ai raconté de vieilles blagues sorties du livre de Pierre-Henri Parry, du rire et de l'horreur. Enfin, vieilles, même pas plus vieilles que moi, puisqu'elles sont des années 60, 70. Mais on a vu quand même, justement, la semaine dernière, que certaines vieillissaient mal. Et encore, j'ai choisi celles qui bougeaient toujours. Mais je n'ai pas épuisé mon sujet. Il en reste encore pour une émission, la voilà, avec en prime, si on a le temps, un petit texte d'Umberto Eco. Mais pourquoi beaucoup de ces histoires ont-elles tant vieilli? Eh bien, c'est qu'elles datent d'une époque avant la mondialisation, hein, avant la chute du mur de Berlin même, au siècle dernier, donc, où les notions de bloc, Est et Ouest, de nation, étaient beaucoup plus marquées. Une auditrice me fait remarquer que les années 60 et 70 n'étaient pas aussi affreuses que je l'ai dit la semaine passée, parce que j'avais dit que c'était une époque... Enfin bref. Ne reprenons pas ces termes. Et je dois lui concéder, c'est vrai que j'ai un peu exagéré la virulence de mon propos, mais l'intention est bonne. Il s'agit non pas de dénigrer une époque qui avait ses bons côtés, hein, et quand même pas de portable, pas de radar, pas d'ordinateur, et en plus on avait 20 ans comme notre auditrice, bon... Mais non, je cherche à réveiller les jeunes générations d'une certaine fascination illusoire pour cette période qui est un peu vue comme une espèce d'âge d'or. Mais trêve de bavardage, revenons à nos histoires. On a vu que le russe, hein, vous rappelez le russe, et alors la petite galette? Eh oui, je vais pas raconter les blagues. Et l'Américain, il tenait une place de choix. Toutes les nationalités, d'ailleurs, y sont représentées avec les clichés de l'époque. Et bien qu'on ne soit pas si loin des sombres années de la solution finale, le juif y est aussi moqué avec les éternels préjugés que nous lui collons sur le dos. Bon, ça vaut mieux entre nous quand même que de coller une étoile jaune. Écoutez plutôt celle-là. La fameuse histoire des tables de la loi. Une histoire qui explique pourquoi les tables de la loi sont toujours représentées en double page, vous voyez. Lorsque Dieu a écrit la loi, celle-ci se présentait sous la forme d'une seule plaque de pierre arrondie à un bout. Son travail terminé, Dieu l'a prise sous le bras, puis il est descendu sur terre pour la proposer aux différents peuples. Il est d'abord allé trouver l'Allemand. « Est-ce que tu veux ma loi ?» Qu'est-ce qu'elle raconte, la loi? Qu'il ne faut pas tuer. Non, merci. Il est allé trouver l'Italien. Est-ce que tu veux ma loi? Qu'est-ce qu'elle raconte, ta loi? Qu'il ne faut pas voler. Ça ne m'intéresse pas. Il est allé trouver l'Arabe. Est-ce que tu veux ma loi? Qu'est-ce qu'elle raconte, la loi? Qu'il ne faut pas mentir. Tu te fous de ma gueule, non? Il est allé trouver le Français. Est-ce que tu veux ma loi? Qu'est-ce qu'elle raconte, la loi? Qu'il ne faut pas baiser hors du mariage. Tu vas me foutre le camp, vieux con. Enfin, il est allé trouver le juif. « Est-ce que tu veux ma loi ? Combien ça coûte ?» a demandé le juif. « Rien du tout. Alors tu m'en mettras deux. » Et oui, voilà le type d'histoire assez mystérieuse sans doute hein, pour les générations d'aujourd'hui. Bon, rappelons que le mur de Berlin n'était pas encore tombé et les histoires d'ailleurs dites anticommunistes et antisoviétiques ont un succès immense aussi à cette époque. Bon, faut dire que là, il faisait tout le travail. Il faisait tout le travail. Donc forcément, les humoristes, ils n'avaient qu'à piocher et prendre. Tenez, écoutez déjà ce dialogue polonais. Pourquoi dans la presse polonaise qualifie-t-on le peuple russe de peuple frère et le peuple hongrois de peuple ami seulement ? C'est qu'on choisit ses amis alors qu'on ne choisit pas ses frères. Et celle-là très connue. L'action se passe vers 1930. Staline visite un hôpital psychiatrique. Après l'inspection des salles et des installations, le médecin en chef l'introduit dans une chambre occupée par un malade qui ressemble à Staline, qui s'habille comme Staline, qui s'est fait la tête de Staline et se prend pour Staline. Et voilà les deux hommes face à face. Le dictateur, très amusé, observe son sosie. Mais voilà que le médecin est appelé d'urgence au téléphone. Il s'excuse, il y va. Et quand il revient, que trouve-t-il ? Deux hommes, rigoureusement semblables, qui prétendent l'un et l'autre être le vrai Staline. Que faire ? Après beaucoup d'hésitation, il prend au hasard l'un des deux, le remet au chauffeur du Kremlin et l'histoire continue. Mais on n'a jamais su finalement si c'était le vrai ou non. Cette dernière histoire est tchèque et non russe, mais Pierre Gripari a choisi, les dirigeants tchèques étant un peu connus du public français, surtout aujourd'hui, il a transposé tout ça en Russie. Au cours d'une réunion du bureau politique du comité central, le camarade Staline prend la parole. Il se passe, camarade, des choses inadmissibles. Non seulement les citoyens ne lisent plus la Pravda, mais ils écoutent la voix de l'Amérique. Et le pire, c'est qu'ils apprennent ainsi des choses qu'ils ne devraient pas savoir. D'où je conclus que l'un de nos camarades renseigne les Américains. Alors, qui est-ce ? Silence de mort. Personne ne répond. C'est bien. Je vais fermer la porte à clé et aucun de nous ne sortira d'ici tant que je ne saurai pas quel est le salaud qui nous a trahis. Là-dessus, Staline ferme la porte, fourre la clé dans sa poche. Au bout d'une heure, Molotov lève le doigt. « Camarade Staline, j'ai besoin d'aller aux toilettes. Pas question ! Nous resterons tous ici tant que le coupable ne se sera pas dénoncé. » Une heure passe encore. Et de nouveau, Molotov lève le doigt. « Camarade Staline, ça presse, je vous assure. Je ne réponds de rien si vous ne me laissez pas sortir. Niette !» Tout le monde s'écrase. Au bout d'une demi-heure, on entend frapper à la porte. « Qui est là ?» demande Staline. « C'est Madame Molotov. Qu'est-ce que vous venez faire ici ? J'apporte un caleçon propre à mon mari. » « Pourquoi ? La voix de l'Amérique vient de m'apprendre qu'il a chié dans son froc. » «
communale. Utilisons des mots cochons. Utilisons des mots cochons pour brocarder tous les bouffons. Sans doute à cause de mon choix, que j'ai sensible au moindre émoi, à moins que ce soit ma vésicule, ou bien encore mon trou du cul, je sens une pulsion colérique me détruire les zygomatiques. J'ai envie de dire des mots salingues pour éviter de tomber dingue devant les discours infâmes de nos décideurs qui brament leur sermon moralisateur. Ayez confiance et n'ayez pas peur. Soyez solidaires, dynamiques. Ne fumez pas de hack. Entreprenez, investissez. Soyez forts et déterminés. Et pour que l'État soit plus balèze, on vous piquera un peu plus de pèse. Nous pauvres cons, on baisse le front et ils organisent l'exclusion. Entouré de ses pauvres coteaux, le grand Mamamouchi nous fourre. Le grand Mamamouchi nous fourre à nous faire exploser l'oignon. L'univers entier nous envie le talent de nos dirigeants, dont le cerveau la rabougrie ne véhicule que du vent. L'idée de la pensée unique, c'est plus c'est nul, plus je te nique. C'est vous dire la force des concepts qui germent dans leur cerveau inepte. La République sans jeu de mots, ils la prennent pour une pute. Lui font des papouilles, des turlutes, et se foutent de guérir ses maux. La trahison de leur promesse, ils la lui mettent entre les fesses. Le fin du fin pour leur boutique, c'est la renommée médiatique. De leur bouche d'or pointe et ructant, leur langue de bois cousue de fil blanc, pour nous déverser un wagon de lieux communs comme des étrons. Entouré de ses porte-coton, le grand Mamamouchi nous fourre. Le grand Mamamouchi nous fourre à nous faire exploser l'oignon. J'entends déjà le réquisitoire contre ma chanson dégueuloire. Mais la chanson n'est pas finie, faut récurer le fond de la marmite. Qui sait ce PQ sans façon qui salit les institutions? Qui sait ce malheureux baveux et ses rimes à la poilneux? Qui sait ce teigneux anarchique au mauvais goût catastrophique, donnant des armes aux extrémistes, aux factieux, aux pourris, aux fascistes? À vrai dire, j'en ai rien à faire du bon goût et des bonnes manières. Pourquoi nous laisser gouverner par des bouffons crétins fiefés? C'est de ne pas gueuler qu'on crève. On n'a qu'une vie et elle est brève. À cette pensée, mes yeux se mouillent. Faudrait plus qu'on nous casse les couilles.
Et voilà, vous avez reconnu sans doute un morceau. Je croyais que c'était le titre Le Grand Mamamouchi nous fourre, mais non, c'est
aux bouffons. C'est une chanson qui est dédiée à tous les bouffons de la terre. Et Dieu sait s'il y en a. Surtout à cette... Bon, Béranger, c'est quand même une autre époque. Il est mort il y a une dizaine d'années maintenant. Je crois que même, on me disait qu'on allait bientôt célébrer les 10 ans de sa mort. Donc, il y aura peut-être des émissions spéciales, bien que ce soit pas un chanteur vraiment, disons, du top 50 qui est connu et... Il est resté un peu confidentiel, mais des beaux textes, toujours. Voilà, donc... oui, alors, on va terminer. Oui, alors, cette histoire, bien sûr, avec Molotov et avec La Voix de l'Amérique, bon, je comprends que pour les jeunes générations, ce soit un peu bizarre, on a du mal à comprendre, on imagine... Bon, c'est pour ça que je vais terminer avec une histoire tout à fait universelle, bien qu'elle date aussi des années 60, que j'aime particulièrement, c'est l'histoire du petit singe. Et elle se passe non pas en Russie cette fois-ci, mais bien sûr en Amérique. Il n'y avait que ça à l'époque, c'était soit la Russie, soit l'Amérique. Dans un bar américain, lumière tamisée, musique douce. Un client commande un whisky. On le lui sert, mais aussitôt un petit singe survient, qui chevauche le verre, trempe ses testicules dans le liquide et s'enfuit. Écœuré, le client, bien sûr, commande un second whisky. À peine le deuxième verre est-il posé sur le comptoir que le singe revient, réitère l'opération et disparaît une fois de plus. Cette fois, le client prend ses précautions. Il commande un troisième whisky et l'attrape directement de la main du barman et le boit aussitôt. Après quoi, il demande « Combien je vous dois ?»« 3 whisky, ça fait tant », répond le serveur. « Ah non, ça ne va pas. Je n'ai pas bu les 2 premiers. Vous ne les avez pas bu, mais moi je les ai servis. Mais enfin, vous avez bien vu le petit singe. J'ai vu, mais ça ne change rien. Ce singe n'est pas de la maison. Arrangez-vous avec son propriétaire. » « Mais qui est le propriétaire ?»« Je n'en sais rien, dit le barman. Je ne suis ici que depuis ce matin. Mais demandez au pianiste, il connaît tous les habitués. » Le client s'approche alors du pianiste. « Vous connaissez le petit singe qui trempe ses couilles dans le whisky ?» Le pianiste réfléchit un moment. « Vous pouvez me siffler les premières mesures ?» Pour terminer, on va quitter Pierre Gripari et se tourner vers Umberto Eco, qui est aussi un peu de la même époque, même que si lui, il est toujours vivant. Un texte qui date des années 92, voilà. Et vous verrez que c'est prophétique. Comment retrouver l'idiot du village à la télé ? Quid du théâtre comique dans une civilisation qui a décidé de se fonder sur le respect de la différence ? Par tradition, le comique a toujours spéculé sur l'estropié, l'aveugle, le bègue, le nain, l'obèse, l'idiot, le déviant, la profession jugée infamante ou l'ethnie tenue pour inférieure. Eh bien, tout cela est devenu tabou. Aujourd'hui, ne vous risquez plus à imiter un inoffensif paria. C'est une vexation. Quant à Molière himself, il ne pourrait plus ironiser sur les médecins sans provoquer aussitôt le tollé de la corporation entière, liguée contre ses allégations diffamatoires. Plus question de déguster un nègre en chemise, ni de parler petit nègre à une tête de turc qui serait saoul comme un polonais. Non, le comique pourtant est cruel. Impitoyable par vocation. Il veut un idiot du village qui soit vraiment débile afin que rien de lui nous puissions affirmer notre supériorité sur son incurable déficience. Il fallait donc une solution. On la trouva. Impossible de caricaturer l'idiot du village, ce serait antidémocratique. Soit. En revanche, il est tout à fait démocratique de lui donner la parole. de l'inviter à se présenter lui-même en direct ou à la première personne, ainsi que disent justement les idiots du village. Comme dans les vrais villages, on saute la médiation de la représentation artistique. On ne rit pas de l'auteur qui imite l'ivrogne, on paie directement à boire à l'alcoolo et on rit de sa dépravation. Le tour était joué. Il suffisait de se rappeler que, entre autres éminentes qualités, l'idiot du village est exhibitionniste. Mais surtout que de nombreux sont ceux qui, pour satisfaire leur propre exhibitionnisme, sont prêts à endosser le rôle d'un idiot du village. Jadis, si en pleine crise conjugale un étranger avait étalé au grand jour leur lamentable querelle, les époux auraient intenté un procès en diffamation au nom du bon vieux dicton qui veut qu'on lave son linge sale en famille. Mais lorsque le couple en vient à accepter, voire solliciter la faveur de représenter en public sa sordide histoire, qui a encore le droit de parler de morale? Et voici l'admirable inversion de paradigme à laquelle nous assistons. Exit le personnage du comique brocardant le débile inoffensif, starisation du débile en personne. Tout heureux d'exhiber sa propre débilité. Tout le monde est content. Le gogol qui s'affiche, la chaîne qui fait du spectacle sans avoir à rétribuer un acteur, et nous qui pouvons à nouveau rire de la stupidité d'autrui en satisfaisant notre sadisme. Nos écrans pullulent désormais d'analphabètes fiers de leur baragouin, d'homosexuels se plaisant à traiter de vieilles pédales leurs homologues, d'ensorceleuses sur le retour arborant leur charme d'Hécatie, de chanteurs experts en couac, de bas bleus affirmant l'oblitération palingénésique du subconscient humain, de cocus contents, de savants fous, de génies incompris, d'écrivains publiant à compte d'auteur, de journalistes donnant des baffes et de présentateurs les recevant, heureux de penser que l'épicier du coin en parlera le lendemain. Si l'idiot du village s'exhibe en jubilant, nous pouvons rire sans remords. Rire du débile est redevenu politically correct. Compte à rebours me paraît fini, et bien fini, j'espère. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine. C'était Marco. Ciao.